Sa parole à donc Laurent Séguin, président de l'AFUL, qui est donc l'association francophone des utilisateurs du logiciel libre, qui va nous donc faire une présentation sur le thème de le logiciel libre, vecteur de confiance. Merci.
Merci Ariane. Donc l'AFUL, il y a peu de gens qui connaissent l'AFUL, vraiment. Pourquoi? Parce que on communique assez peu. Et vous allez comprendre pourquoi on communique peu. Déjà, l'AFUL, c'est une association au sens premier du terme. Certes, il y a le régime légal, loi 1901, mais il y a aussi l'esprit association. On est une association qui est un regroupement d'initiatives personnelles. C'est-à-dire que les membres mènent eux-mêmes des actions pour le libre, et ils vont le faire au sein de l'association, soit pour utiliser les moyens techniques ou financiers, soit pour trouver des gens pour les appuyer, soit pour se mutualiser avec d'autres. Et ce n'est pas une petite équipe qui va faire des choses. Après, il y a des membres qui vont faire plus de choses parce que soit ils ont plus de temps, soit ils sont plus passionnés ou autre. Mais c'est vraiment un agrégat de plein de choses. Et l'association est entièrement bénévole. On n'a pas de permanent. Alors, ce n'est pas un choix philosophique, c'est un choix financier. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de se payer un permanent, et l'intégralité des moyens financiers de l'AFUL vont dans les actions de l'AFUL. Donc vous comprenez bien que quand on est entièrement bénévole, quand on commence à mener des actions plus ou moins complexes, parce que comme ce sont des initiatives personnelles, généralement c'est sur de l'expertise et non pas des choses un peu plus génériques. Et donc du coup, ben, soit on fait les actions, soit on communique, et du coup on est assez peu visible, mais c'est des choses sur lesquelles on travaille. On est en train d'essayer de monter une équipe communication, ne serait-ce que pour dire ce qu'on fait. C'est typiquement, dans le monde du libre, on nous reproche de ne pas publier le bilan moral de l'association. Ce n'est pas un choix philosophique, c'est juste que le bilan moral, ça ressemble à une longue liste de listes à points. Et ça n'a aucun intérêt de publier une liste de 70, 80, 100 points sans l'histoire derrière, ce qui s'est passé, le pourquoi. Et donc pour ça, il faudrait détailler les choses. Et c'est du temps. Et quand on est bénévole, ben, soit on fait les choses, soit il faut faire les choix, en fait. Voilà. Francophone, parce que on a voulu, dès le début, donc l'association a été créée en 98, les fondateurs de l'association ont voulu tout de suite ne pas se restreindre à la France. Pourquoi? Parce que déjà, il existait des GUL. Et chacun opérait dans son territoire, et il fallait quelque chose d'un peu plus large pour parler notamment au niveau politique et à l'international. Donc les membres de l'AFUL, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Afrique, il y en a dans les îles du Pacifique, il y en a dans les îles de l'océan Indien, dans tous les pays francophones d'Europe, et bien sûr beaucoup en France, parce que voilà, le siège social est à Paris. Donc ça veut dire qu'on mène des actions. Enfin, les membres de l'AFUL mènent des actions au niveau local et vont créditer ces actions-là à l'association. Et c'est comme ça que ça doit se faire, parce que quand on veut mener une action, par exemple à Tahiti, c'est beaucoup mieux que ce soit des gens qui habitent Tahiti qui la mènent que des gens qui sont à Paris. Donc ça a l'air assez logique comme ça, mais ça explique pourquoi on a un fort ancrage auprès des GUL francophones. Parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et qui vont vraiment faire avancer les choses. Après, derrière, l'association va regrouper les pratiques qui ont été faites, les échecs, les succès, et on met tout ça en commun afin d'avoir un patrimoine et de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Le terme utilisateur, il faut le prendre au sens large du terme. C'est-à-dire qu'il y a des particuliers, comme vous et moi, mais il y a aussi des administrations. Il y a aussi des écoles, il y a aussi d'autres associations, il y a des entreprises qui vont de la petite entreprise unipersonnelle à la multinationale. Donc on a un petit peu tout ça. Et donc du coup, à partir du moment où on se sent utilisateur de logiciels libres, ça ne veut pas dire qu'on ne doit utiliser qu'exclusivement du logiciel libre. Il y a des gens qui hésitent à adhérer à l'AFUL parce qu'ils sont sous Windows, et donc ils se disent « je vais me faire jeter des cailloux dessus ». Non, à partir du moment qu'il a compris ce que c'est que le logiciel libre et pourquoi il faut utiliser du logiciel libre, et qu'il soutient le logiciel libre, mais que pour des raisons qui lui appartiennent, il préfère rester sous Windows, ou il est obligé de rester sous Windows, il est quand même utilisateur de logiciel libre, et donc il est bienvenu. Et peut-être qu'au contact des autres, il va changer ses pratiques et son Windows. C'est la même chose pour les gens qui utilisent macOS, hein, au passage. Voilà. Et donc, le logiciel libre, bien évidemment, on s'est fondé là-dessus, mais on a évolué parce que il y a une belle phrase que j'aime beaucoup qui dit que si le logiciel libre ne libérait du code, on aurait raté l'opportunité du siècle. C'est vrai. Donc, à la FUL, on va s'occuper aussi de tout ce qui est ressources libres. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ressources libres ? Les ressources libres, ce sont tout ce qui est texte, images, vidéos, sons, etc., peinture, sculpture, on peut tout détailler, qui sont sous licence libre. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous faites une peinture que vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas la mettre sous licence libre. Alors, il y a des licences à ne pas prendre quand on fait une peinture ou une sculpture. Si vous faites une sculpture, j'arrive derrière avec mon petit marteau Burin, ça y est, je fais une œuvre dérivée et j'ai détruit votre œuvre. Donc, il y a des licences, comme la licence art libre, qui vous permettent en fait de répliquer entièrement la sculpture et après de faire une œuvre dérivée. Donc, on ne touche pas à l'original. Donc, on s'occupe de tout ça. Et on a fait rentrer en 2011 une notion qui est les services en ligne libres et loyaux. Pourquoi ? Parce qu'on s'est posé la question... Enfin, on s'est posé la question. On a vu le cloud computing nous arriver sur la tête et on s'est dit, ça y est, ils ont réussi à enlever le logiciel des mains des utilisateurs. Et donc, du coup, bah, ça a potentiellement la fin du libre pour l'utilisateur, même si le service en ligne est libre ou à base de libre. Et donc, du coup, on a réfléchi pendant longtemps avant de trouver la définition de ce que c'était que d'avoir pratiquement les mêmes libertés sur un service en ligne qu'avec un logiciel installé sur mon ordinateur. Et on a développé la notion de service en ligne libre et loyal. La FUL est constituée de plusieurs groupes de travail. Il y en a des très vivants et des très morts. Dans les actifs, il y a un groupe éducation et éducation populaire. Alors, je les mets ensemble, même si ce n'est pas les mêmes gens, si c'est un peu séparé. C'est l'éducation et l'éducation populaire, c'est l'ADN de la FUL. Ça a été créé pour ça, en fait. À l'origine, c'était vraiment aller dans les universités, aller dans les écoles, pour dire que, un, il y a du libre, et deux, derrière le libre, il y a des valeurs, et que chaque étudiant, notamment en informatique, doit intégrer ça. Et c'est pour ça que la FUL a signé, dès 1998, un accord cadre avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour dire que dans le logiciel, il y a aussi du logiciel libre et que ça doit faire partie de l'enseignement. L'éducation populaire est arrivée bien plus tard, sous pression des membres qui faisaient de l'éducation populaire et qui avaient besoin que statutairement la FUL ait intégré l'éducation populaire. Donc ça veut dire qu'on en faisait avant, les membres en faisaient, mais ce n'était pas statutaire. Parce que la FUL est une association un peu bizarre, c'est qu'on ne fait que des choses qui sont dans les statuts. On ne déborde pas, sinon on se fait gronder par les membres, les autres. Donc voilà, on ne s'occupe que de ça, que de dans le champ de nos statuts. Donc on a fait rentrer l'éducation populaire. Et là, ça nous a ouvert encore d'autres portes extrêmement intéressantes, notamment tout ce qui est CMEA, donc les centres d'éducation populaire, un peu partout, donc que ce soit à La Réunion, que ce soit à Madagascar, etc. Donc ça nous a ouvert des portes de l'éducation populaire qui ne sont pas forcément liées au libre et où les membres ont pu aller parler de libre. L'interopérabilité, c'est aussi un très vieux groupe de travail de la FUL. C'est par celui-là que personnellement je suis rentré à la FUL. Comme son nom l'indique, on s'occupe de tout ce qui est interopérabilité. Alors en 99-2000, ça s'occupait surtout des sites web réservés Internet Explorer, réservés Netscape. Je ne sais pas si vous avez connu cette période-là, mais si vous n'aviez pas le bon navigateur, vous ne pouviez pas visiter le site web. C'était très, très, très embêtant. Donc Tristan Nitto parle de balkanisation du web. C'était vraiment ça. Il y avait des guerres, quoi. Donc la FUL a fortement activé sur ces choses-là. Après, il y a eu toute une partie sur les documents révisables. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, il y a eu une norme ISO sur les ODF, la norme ODF, donc ODT, ODS et ODP, qui était gérée par OpenOffice. Et suite à ça, Microsoft a vu qu'il y allait avoir des marchés publics qui imposaient l'usage de la norme. Ils ont voulu pousser leur truc. Et c'est là que la FUL s'est sentie obligée de rentrer à la FNOR, dans la commission documents révisables, pour essayer de contrer un petit peu ce lobbying de Microsoft et de ses satellites. On a deux autres groupes de travail professionnels. Alors là, j'ai séparé en fournisseurs et clients. Donc le client, c'est un utilisateur qui paye. Mais en vrai, c'est pas ça. Il y a un groupe de travail qui est ouvert à tout le monde et un groupe de travail qui est réservé aux membres de la FUL. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il y a certaines actions qui sont proactives, qui sont encore en travaux, qui sont encore en mode de réflexion, et ce serait dangereux de les donner comme ça à la vindicte populaire et surtout aux opposants du logiciel libre qui pourraient surveiller notre feuille de route à 3 à 5 ans. Donc c'est pour ça qu'on a un groupe de travail qui est réservé aux membres de la FUL, bon, sachant qu'il suffit qu'ils adhèrent et qu'ils rentrent dans le groupe. Mais bon, voilà, c'est des choses comme ça, c'est des volontés internes. Donc professionnel, il y a deux choses. La première chose, ça a été de dire qu'on pouvait faire du business avec du libre. Aujourd'hui, ça a l'air tellement évident, mais qu'en 99, enfin, jeune militant du libre, on me disait, mais si c'était sérieux, votre logiciel libre, on le vendrait. C'était ça. Ou alors on me disait, ouais, mais la GPL, c'est pas compatible avec le business. Faut voir d'où on vient, quoi. Faut remonter un peu dans l'histoire. Et oui, on a réussi tous collectivement à dire que oui, c'est compatible avec le business. Oui, on peut gagner de l'argent. Peut-être pas énormément. On n'aura probablement jamais la fortune de Bill Gates. Mais on peut en vivre et on peut faire du bien à l'humanité avec du libre. En 2011, j'ai demandé un changement statutaire aussi à l'Assemblée générale, parce que je trouvais que personne ne s'occupait des clients, les intérêts des clients. Donc cet utilisateur qui paye, personne ne défendait les intérêts. On disait, ouais, il faut faire du libre, utiliser du libre et tout ça. Mais le comment acheter, pourquoi acheter, comment gérer mon projet de migration, est-ce que je dois prendre du libre pour tel ou tel truc? Personne ne parlait de ça, personne ne répondait à ces questions. Donc la FUL a choisi de partir sur ce secteur-là. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que bon, c'est encore de l'expertise, mais ça permet de comprendre certains blocages qu'il y a encore aujourd'hui dans les entreprises, et donc des blocages de notre discours et des choses qu'on pensait acquises et rentrées dans l'inconscient, qui en fait, on est obligé de se remettre en question constamment, pour réaffiner notre discours, pour améliorer les choses, pour discuter, pour convaincre. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Droit et droit d'auteur, ce sont des groupes de travail assez anciens aussi. Le droit, c'était plutôt pour discuter sur les licences, essayer de comprendre, enfin, d'expliquer la notion de copyleft, de pourquoi elle était importante, de comment ça se gérait avec des licences plus ou moins propres juridiquement. Les problématiques fut un temps. Entre, il n'y a pas de version officielle en français de la GPL, donc est-ce que la GPL est applicable en France? Aujourd'hui, on sait que oui, mais il a fallu un procès pour ça. Il y avait un vrai doute. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une licence qui a été créée par l'INRIA, le CEA et le CNRS, qui s'appelle la licence CECIL, donc qui est en fait un clone des licences BSD et GPL, mais en français. Et droit d'auteur. Là, c'est un groupe de travail un peu complexe. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que sans droit d'auteur, il n'y a plus de licence libre. Donc, il n'y a plus d'obligation de réciprocité avec le copyleft. Si tout est dans le domaine public, on pourrait tout faire dans le domaine public, mais il n'y a pas forcément d'obligation de réciprocité qu'amène le copyleft. Et donc, du coup, ça crée un vrai flou. Donc, le droit d'auteur est comme quelque chose d'extrêmement important pour le libre, je pense. Après, ça peut se discuter. Il y en a qui ne sont pas sur la même ligne, mais ça, c'est ma conviction et c'est la conviction des autres membres de la FUL. Et il s'est passé une autre chose aussi pendant une période, c'est qu'il y a eu toute une notion des œuvres indisponibles ou des œuvres orphelines. Et du coup, il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est génial, si on ne retrouve pas les auteurs, eh ben, on va faire payer quand même l'usage de l'œuvre. Ah ouais, mais si l'auteur a dit qu'elle était sous licence libre. Ou alors, si on ne sait pas, est-ce qu'on lui a demandé? Non. Donc, voilà, on a travaillé là-dessus au sein du CSPLA, avec Bernard Lang qui fait ça, et d'autres sujets de droit d'auteur, notamment la réforme du droit d'auteur dans le numérique, parce que le droit d'auteur, aujourd'hui, il date de 200 ans, même s'il est évolué, on se rend compte qu'il ne correspond plus à la civilisation du 21e siècle, quoi. Donc, il faut le faire évoluer. Et enfin, une action que vous devez connaître forcément, qui s'appelle l'action non racketticielle, qui est probablement la plus visible, parce que c'est sur laquelle on communique le plus pour en parler. Donc là, c'est en fait, à chaque fois que vous achetez un ordinateur, eh ben, on vous vend des logiciels avec. Et ces logiciels peuvent correspondre à 30% du prix de l'ordinateur, et vous n'en voulez peut-être pas. Et donc, du coup, on part du principe que vous devriez avoir le choix de dire « Non, je ne veux pas payer pour ces logiciels. » Donc, on appelle ça du racketticiel. Avant, on l'appelait détaxe. On a changé le nom en 2005, si je ne m'abuse. On l'appelait détaxe parce que c'était un petit jeu de mots sur la taxe sur les fenêtres. Donc, the Windows tax. Voilà, c'était un petit jeu de mots. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne comprenaient pas bien le mot détaxe. Parce qu'il y avait aussi des notions de TVA. Ouais, mais vous l'enlevez la TVA? Non, rien à voir. Donc voilà, racketticiel, au moins, ça c'est clair, ça parle bien. Et donc on a d'autres groupes. Donc je dis en sommeil, ça veut dire qu'il n'y a pas de membres qui sont actifs dessus. Donc il suffit qu'il y en ait un qui soit intéressé par le sujet, qui dise « Ah ouais, tiens, moi je veux travailler là-dessus », bah hop, vas-y, il y a un endroit, tu peux y aller, demande aux autres de venir, et voilà. Donc formation, pourquoi il est en sommeil? Parce que quand il était créé, il n'y avait pas de formation sur les logiciels libres. Mais pas du tout. Donc c'était les install parties, trucs comme ça. C'était, bah tiens, je vais t'apprendre à utiliser OpenOffice. Et donc du coup, il y a des organismes de formation qui se sont créés spécialisément sur le libre. Et les organismes de formation plus traditionnels ont aussi intégré du libre. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les boîtes plus ou moins liées au libre font aussi des formations sur le libre. Donc c'est pour ça que ce groupe est en sommeil et je ne pense pas qu'il sera réactivé parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une offre de formation. Sur le site de l'AFUL, on a deux listes pour les formations. La première, c'est sur les formations fournies par les entreprises, donc des formations professionnelles. Donc quand on a une activité, on peut faire valoir ses droits au DIF et donc demander de telles formations. Et une autre qu'on a mis beaucoup de temps à créer parce que c'est... L'information était diffuse, c'est la liste des formations diplômantes en libre. C'est-à-dire qu'en tant qu'étudiant, on peut choisir quelle formation on veut faire pour travailler sur du libre et avoir un diplôme lié au libre. Et la deuxième action qui découle donc de ces formations diplômantes, ça a été de demander aux entreprises de flécher leur taxe d'apprentissage vers ces formations-là. Parce que la taxe d'apprentissage, c'est le seul impôt sur lequel on peut dire « je veux qu'il aille à tel endroit ». Et donc, toutes les entreprises doivent payer une taxe d'apprentissage. Et l'idée, c'était de dire aux entreprises du libre ou du moins libre, mais voilà, là, il y a une formation, les gens, ils acquièrent un vrai savoir-faire en logiciel libre, il faut flécher votre taxe d'apprentissage là-dessus. E-book, il a été lancé quand c'était la mode. On a essayé de vraiment, là, dans ce groupe de travail, de discuter avec... avec les majors du livre et tout ça, il n'y a rien à faire. Ils sont pires que la musique. Vraiment. Je me souviens de DADVC à l'époque. Là, aujourd'hui, sur le livre, ils font exactement les mêmes conneries. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, quoi. Je pense qu'ils vont crever, en fait. Bref. Et la musique assistée par ordinateur, ça a été créé par quelques membres, un beau fan de musique. Voilà, c'est encore en sommeil parce qu'il y a déjà des sites vachement bien, dont Linux AMAO qui est plutôt très très bien pour avoir de l'info.
Et
Libertech? Ah pardon, j'ai oublié Libertech. Libertech, c'était du logiciel libre dans les bibliothèques. C'est-à-dire que vous alliez à votre bibliothèque, il y a des logiciels dans les bibliothèques. Et donc l'idée c'était que plutôt que de partir avec un Photoshop, vous partiez avec un GIMP. Et ou alors avec des CD de GNU Linux ou du BSD ou peu importe. Donc voilà, c'était ça. Ça existe encore un peu. Il y a des petites choses qui se font, mais c'est plutôt au niveau local en fait. C'est le bibliothécaire qui est fan de libre, qui en met dans sa bibliothèque. Voilà, c'est des trucs comme ça. Il n'y a pas d'action concertée et tout ça. Ça peut être aussi les livres liés au livret. Je vais revenir, bon, normalement vous connaissez tous parfaitement ce que c'est que le libre, mais je pense que c'est bien de revenir sur les fondamentaux, parce que on oublie toujours, quand on est dans l'action, ou quand on est convaincu de quelque chose, on oublie de revenir souvent aux fondamentaux et prendre de la hauteur sur pourquoi on fait du libre. Et en fait, le libre est né de trois, et le plus important, c'est vraiment ces trois valeurs qui sont la confiance, le partage et la pérennité. Confiance, alors la confiance a plusieurs niveaux. C'est déjà, on peut avoir confiance dans le logiciel. Parce que pourquoi on peut avoir confiance dans le logiciel? Parce qu'on a accès au code source. Donc on peut regarder le code source. Et puis on peut, s'il y a la moindre petit bout de code malicieux, ça se voit. Donc on peut avoir confiance dans le code source. Ensuite, il y a aussi la confiance dans les gens qui le font. Comme ils le font de manière ouverte, on va se dire, généralement, il va faire ça plutôt proprement. Voilà, il ne va pas faire du trash code. Donc voilà, comme on va pouvoir le lire. Donc il y a le jugement des pairs. Et donc du coup, voilà, on peut avoir confiance dans le code pour qu'il s'exécute bien. Et il y a toute une notion de partage aussi. Donc partage d'abord du logiciel. Et aussi partage de savoir et de savoir-faire. C'est pour ça qu'on pousse le logiciel libre au sein de l'éducation. Ça doit être un crime d'amener un logiciel pas libre dans une classe informatique, je pense, parce que ça atrophie le cerveau et donc du coup ça casse le savoir-faire. Et quand je vois les jeunes qui sont formés sur des machines Apple avec des logiciels dont ils n'ont absolument pas le code source, j'ai peur, quoi. Je me dis, où sont les hackers de demain? C'est-à-dire, quand on était jeune, l'informatique n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, mais on maîtrisait beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un iPhone, un MacBook, je ne sais pas quoi. Donc ça, la question, c'est quelle génération on veut faire. Et donc du coup, voilà, la notion de partage de code, la notion de partage de savoir, de savoir-faire, et en fait, pour apprendre à coder, il n'y a pas de secret. Il faut lire du code et il faut en faire. Voilà. En lire beaucoup, en faire un peu. Et généralement, on ne part pas de zéro, on prend un programme qui existe déjà, on rajoute une petite fonction, on enlève une, on recompile. Waouh, génial, ça marche. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend à coder. Et donc, voilà, il y a toute une notion de partage. Et pérennité, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'un logiciel libre ne s'arrête. Zéro, il n'y en a aucune. Pourquoi un logiciel libre s'arrêterait? Pourquoi on arrêterait de le développer? Tant qu'il y a des gens pour s'y intéresser, donc tant qu'il a des utilisateurs, en fait, un logiciel libre ne s'arrête pas. Après, il peut s'arrêter parce qu'il n'y a personne qui a envie de le maintenir ou le continuer. Mais dans les faits, un logiciel libre, tant qu'il y a quelqu'un qui est prêt à maintenir le code et à le faire évoluer, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Alors que quand ce n'est pas libre, il y a une logique commerciale. C'est-à-dire que on vous a vendu la version 1.0 et puis on voudrait bien vous vendre la version 2. Donc du coup, on va faire en sorte que la version 2 génère de nouveaux formats de fichiers ou intègre des choses que vous voulez absolument. Et donc du coup, vous allez arrêter la version 1 pour acheter la version 2. Donc voilà, il y a cette notion-là. Et pour vous donner un exemple, là, cette machine, c'est du GNU Linux. GNU, ça a été écrit dans les milieux des années 80. Donc j'utilise du code qui a 30 ans. Voilà, chercher dans le monde propre, non libre du code qui a 30 ans. C'est un peu plus rare, c'est dans les avions. Et donc voilà, ces trois valeurs, confiance, partage, pérennité, en fait, sont découlées en quatre libertés que vous connaissez certainement par cœur. Donc il y en a deux pour les libertés individuelles et deux pour les libertés collectives. Donc la liberté d'exécuter le logiciel pour n'importe quel besoin. Ça, c'est la liberté zéro. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser un logiciel pour faire quelque chose dont l'auteur n'a pas pensé que ça pouvait faire. Ça a l'air super évident comme ça quand je le dis, mais en fait, c'est super disruptif. C'est-à-dire que si ce n'est pas libre, vous n'avez pas le droit d'utiliser pour autre chose que ce qui ça a été prévu, quoi. Ben là, vous pouvez, vous avez le droit, c'est énorme. La deuxième chose, c'est que vous avez le droit d'adapter le logiciel à vos besoins. Vous avez le droit de le modifier pour vous. Ça, c'est la liberté 1. Donc, c'est encore une liberté individuelle. Donc, d'abord, j'utilise le code qu'on m'a donné comme j'ai envie. Et deux, je le modifie comme j'ai envie. et je ne demande rien à personne. Et je ne demande pas d'autorisation. Et personne n'a rien le droit de me dire. Et si je veux garder ma modification secrète juste pour moi, j'ai le droit. Je suis libre de le faire. Donc ça, ça permet en fait de pouvoir, un, utiliser le logiciel comme on le veut, et deux, de pouvoir l'adapter à certains besoins qui n'ont pas été prévus. Ensuite, il y a les libertés collectives, donc là aussi, deux autres. Donc la liberté 3, c'est la liberté de... Non, la liberté 2, pardon, là, c'est la liberté de faire des copies exactes du logiciel que vous avez eu. Donc je fais un logiciel, je vous le donne, vous avez le droit de le donner à votre voisin. Voilà, c'est, vous avez la liberté de le redonner. Et ça, c'est, on en revient encore à la notion de partage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'argent. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un Photoshop. Par contre, vous pouvez me donner un The Gimp. Vous voyez la notion. Et ça fait la même chose. Hein. Les gens qui disent « Ouais, Photoshop, ça fait des trucs super. » Je connais personne qui a des besoins spécifiques Photoshop. Généralement, Gimp suffit. Et la troisième liberté... Donc la deuxième collective et troisième, quatrième liberté, c'est la liberté de publier ses modifications. C'est-à-dire qu'avec vos libertés 1, vous avez effectué des modifications, et avec la liberté 3, vous pouvez les publier. Donc là, c'est une notion de pérennité et de partage. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas à demander l'autorisation pour publier. Si le mainteneur ne veut pas de votre code, vous le publiez quand même. Après, chacun le prend ou pas. Mais l'idée, c'est plutôt de dire on va tous travailler ensemble sur le même logiciel pour le faire l'améliorer et le faire avancer. Donc voilà, s'il y a cinq choses à retenir, c'est confiance, partage, pérennité, et deux libertés individuelles et deux libertés collectives. Donc on en vient à ce qui m'amène ici, en fait, pourquoi je dis que le logiciel libre est vecteur de confiance, c'est parce qu'on a changé d'air. On a changé d'air avec les révélations d'Edward Snowden. Et jusque-là, jusqu'à Edward Snowden, nous, militants du libre, disions, vous pouvez avoir 100% confiance dans du logiciel libre. Il n'y a pas de code malicieux. Le logiciel libre ne vous fera jamais, vous, en tant qu'utilisateur, du mal. Et on disait, le logiciel qui n'est pas libre, par définition, va vous faire du mal, parce que soit il va enfermer votre patrimoine numérique, soit il va comporter du code un peu malicieux, mais on n'avait que des preuves faibles. Disons qu'une entrée dans une base de registre qui s'appelle NSAKI, ça met un doute, mais ce n'est pas une preuve flagrante. Aujourd'hui, on a des preuves flagrantes. Edward Snowden nous a donné des preuves flagrantes. Donc la première des preuves qu'il nous a données, c'est quand même les portes dérobées dans des logiciels qui ne sont pas libres. Donc ça veut dire que la NSA, non seulement demande à des grandes entreprises du logiciel mondial d'intégrer des portes dérobées, mais surtout qu'ils utilisent ces portes dérobées. C'est... totalement hallucinant, quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, chaque fois qu'on utilise un logiciel qui n'est pas libre, on se pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas une porte dérobée ? Est-ce que la NSA ne va pas rentrer pour voler mon patrimoine numérique ? Donc, quand on est perso, quand on est un particulier, généralement, c'est pas grave. Quand on est une grande entreprise, ça peut peut-être poser des problèmes. Ou quand on est un militant, ça peut aussi peut-être poser des problèmes. Donc aujourd'hui, on a des preuves qu'il y a des logiciels non libres qui ont des portes dérobées et qui sont utilisés tous les jours. Ça fait peur. La deuxième chose, c'est l'interception des données sur les services en ligne avant chiffrement. Donc le cloud, c'est super, c'est sécu, tout ça. Il faut faire du mail cloud, il faut mettre ses fichiers dans le cloud et tout ça. OK. Ben voilà. Voilà. En fait, à chaque fois que vous utilisez du cloud, eh ben, vous faites une copie à la NSA. Bon. Le truc, c'est que s'ils rendaient les fichiers, si on les perd, ce serait génial, mais ils ne font pas. Donc oui, l'entreprise qui fait du service en ligne comme ça va vous dire, mais bien sûr, on chiffre vos données. Et c'est vrai. Bien sûr qu'ils les chiffrent. Bien sûr, ils vont les stocker en mode chiffré, au cas où qu'il y a un hacker de 15 ans qui vienne piquer vos fichiers. Et ouais, ça, ils le font. Par contre, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que juste avant le chiffrement, la NSA récupère tout. Et ça, c'est une des révélations d'Edward Snowden. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans Outlook.com, on ne peut pas avoir confiance dans Gmail, on ne peut pas avoir confiance dans Yahoo Mail. On peut pas avoir confiance parce que voilà, on fait une copie directement chez la NSA. En fait, la NSA devrait directement faire une boîte aux lettres, ce serait beaucoup plus simple, et demander et racheter Dropbox. Et voilà, on n'en parle plus, quoi. Edward Snowden nous a aussi appris que il récoltait la NSA, et donc quand je dis NSA, il faut comprendre les services secrets des pays amis, comme l'Angleterre, voilà, comme Nouvelle-Zélande, comme voilà, enfin, on les connaît, quoi. Et donc du coup, vos données privées sont copiées, vos données privées fuitent. Donc c'est tout ce que vous mettez sur Facebook. C'est tout ce que vous mettez sur Twitter, c'est tout ce que vous mettez sur Blogger, etc. Donc, tout ça, ça part. Ok. Ensuite, on va vous surveiller en temps réel. Dès que vous utilisez un média social, vous allez être surveillé en temps réel. Bon. Why not? Puis comme c'était pas assez, hein, vraiment, ils se sont dit, ah, mais il y a des données qui nous échappent. Parce qu'il y a des gens, ils n'utilisent pas tous ces trucs-là. Et il y a des mecs, ils utilisent du logiciel libre et qui n'ont pas de compte Facebook. Alors déjà, c'est louche et on ne peut pas les surveiller. Donc comment on fait? Hop, on va espionner les nœuds d'échange Internet. Si vous ne connaissez pas bien l'architecture d'Internet, en fait, c'est 20 000 réseaux qui sont interconnectés entre eux. Et donc, entre chaque point, il y a des nœuds d'échange. Et ben voilà, là, ils écoutent les nœuds d'échange. Donc en fait, on a beau ne pas utiliser des services en ligne ni loyaux, ni rien. On a beau ne pas utiliser de logiciels pas libres, eh ben on est quand même espionné. Et puis en plus, c'est qu'ils vont pirater votre machine. Ça, c'est génial. Donc du coup, voilà, la NSA et ses amis, la France aussi, hein, passage, hein, ils ont des petits logiciels espions qui peuvent déployer sur vos ordinateurs. Voilà, même Linux, hein. Voilà, faut pas se leurrer, c'est pas parce qu'on n'utilise pas Windows ou macOS que on peut pas se faire véroler par un logiciel espion. Bien sûr, on peut se faire véroler par un logiciel espion. Alors le truc qui est drôle, c'est le niveau technique d'avancement de ces logiciels espions, c'est que c'est pas le petit virus qui est détecté par McAfee, hein, c'est des virus de BIOS. Donc c'est encore plus... C'est quasiment impossible parce qu'ils utilisent des failles de sécurité qu'ils ont découvert ou qu'ils ont achetées. Et du coup, là, bah, on peut quasiment rien faire. Et bien sûr, ils vont aussi pirater les routeurs dans les entreprises, chez les opérateurs. Et puis les pare-feux aussi, c'est super intéressant. Parce que voilà, généralement, on se dit, bon, on a un super pare-feu, donc derrière, yalla, pas de sécu, quoi. Ouais, bah, erreur. Erreur grave. Alors ça, celle-là, c'est celle qui m'a vraiment détruit, je pense. Où là, je me suis dit, je vais peut-être aller élever des chefs dans le Larzac, parce que là, Edward Snowden nous dit que, en fait, la NSA et le CGHQ, donc c'est la NSA anglaise, sont capables de décoder pratiquement tous les systèmes de chiffrement des communications Internet. Ça fait méga peur, quoi. Alors, j'utilise bien le terme « décoder », parce que derrière, il y a du décryptage, donc on casse le système de chiffrement sans la clé, et du déchiffrement, ça veut dire qu'ils ont la clé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à SSL. À chaque fois que je vois HTTPS, j'ai peur. Je me dis, est-ce que la NSA n'a pas la clé? À chaque fois que j'utilise une méthode de crypto, je sais pas, un truc genre RSA ou autre, je me pose la question, est-ce que c'est suffisamment bien sécu? Donc, ça va, pour envoyer un mail au secrétaire de la FUL en mode chiffré pour lui dire « faut pas oublier le tel truc pour l'AG », il n'y a pas de gros enjeux. Par contre, il y a peut-être de plus gros enjeux quand on s'appelle Thales ou EADS. Donc, ce genre de choses, ou quand on s'appelle la banque XYZ. Voilà. Bah, puisqu'on parle de banque, tiens, non, c'est après. Hop, c'est là. Ils espionnent les paiements. Je vais revenir. Donc, il y a ces appareils-là aussi. Là. Je pense que tout le monde en a un. Qui n'en a pas? Levez la main. Oh là, mon Dieu. Petit smartphone. Hein, ça. Alors, contrairement à ce que vous pensez, ceci n'est pas un téléphone. Ceci est un ordinateur qui a une fonction un peu bizarre, qui sert pratiquement à rien, que c'est de téléphoner sur un réseau qui n'est pas Internet. Mais c'est un ordinateur. Et donc, ces machins, bah, c'est super espionné. Alors, c'est espionné à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau du système d'exploitation. Il faut savoir que dans ces petits appareils-là, comme c'est un ordinateur, il a un système d'exploitation, puis comme il a une fonction bizarre qui est de téléphoner sur un réseau qui n'est pas Internet, il a un deuxième système d'exploitation pour ça. Donc, le premier système d'exploitation, bah, on le connaît, hein, c'est iOS, BlackBerry, Android, Windows Phone, etc. Et bien, ça, c'est verrouillé. Enfin, c'est pas verrouillé du tout, d'ailleurs. C'est complètement ouvert pour ces services-là. Et donc, ça veut dire aussi pour d'autres. Hein. Et du coup, bah, vos contacts, vos SMS, vos notes, vos coordonnées GPS, tchoup. Donc, non seulement ils savent avec qui vous parlez, ils savent qui vous connaissez. Ils savent les petites notes que vous prenez, mais ils savent en plus où vous êtes et où vous étiez. Super. Et le deuxième système d'exploitation, donc, qui s'appelle le baseband, lui, en fait, parce que éventuellement l'Android là, qui m'a été fourni par le fabricant de ce téléphone, je peux le remplacer. Je peux le remplacer en utilisant un autre système. Ça peut être Android complètement libre, plus ou moins, ou répliquant qui est un Android fait par soutenu par la fondation, la Free Software Foundation. Je peux faire ça, je peux utiliser uniquement du logiciel libre. Par contre, le baseband, je peux rien faire. Le baseband, je peux absolument rien faire. Et le baseband, vous savez, c'est ce petit système d'exploitation qui fait que vous recevez des coups de fil, en fait. Donc ça veut dire qu'il est activé par ailleurs. C'est le petit truc qui permet d'identifier votre téléphone sur le réseau 2G, 3G. C'est le petit machin qui sait vous positionner en fonction des antennes que vous captez. Voilà. Et ça, on ne peut absolument rien faire parce que ce n'est pas libre. Et ça peut activer le micro à distance. Enfin, ça peut faire des... Et puis, en plus, il y a des super fonctionnalités qui sont inventées par les opérateurs. C'est génialissime. C'est vous perdez votre téléphone, vous allez sur un site web, vous cliquez, effacez les données de mon téléphone. C'est génial. Et ça, c'est vrai pour iPhone, c'est vrai pour Android, c'est vrai pour BlackBerry. Windows Phone, je ne sais pas, j'en ai jamais vu. Donc, dans les mains des gens de Microsoft, mais c'est tout. mais vraiment, quand on réfléchit à ça, il suffit d'aller sur une page web, de cliquer sur un bouton pour effacer l'intégralité des données d'un téléphone. Sans où qu'il soit sur la planète. Mais ça fait super peur. On hallucine complètement. Et donc ça, c'est possible. Pourquoi ? Parce que entre les deux systèmes d'exploitation, il y a une petite passerelle qui fait que, en fait, en passant par le baseband, on peut aller écrire dans le système d'exploitation que vous voyez. Donc moi, j'appelle ça une faille de sécurité majeure et une faute professionnelle, mais non, eux, ils appellent ça une fonctionnalité. Voilà. Et donc aussi, ils espionnent tous vos paiements et les transactions bancaires. Donc là, ils vont vous dire, ouais, mais c'est pour regarder l'argent du terrorisme ou de la mafia et tout ça. Bon, ça a permis aussi d'assécher Wikileaks, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, la question qui se pose, c'est sur le mot espionner. Est-ce qu'ils espionnent vraiment ou est-ce qu'il y a une collaboration ? On ne peut pas trop le savoir parce que les interventions des services secrets américains dans les entreprises... elle est soumise à une loi américaine qui est extrêmement violente. Et à chaque fois qu'on ouvre un petit peu la bouche, et ben, bam ! Donc on ne peut pas savoir. D'ailleurs, c'est pour ça, peut-être que vous avez vu Linus Torvalds, on lui a demandé s'il avait été approché pour intégrer du code ou des portes dérobées dans Linux. Et il a fait non. Pourquoi ? Parce que légalement, il n'a pas le droit de dire oui. Sinon, il part en tôle. Et parce qu'il est américain maintenant, hein, Linus Torvalds s'est fait naturaliser, peut-être qu'il regrette un peu maintenant, je sais pas. Mais oui, il n'y a pas le droit. Et c'est pour ça que Microsoft vous dira, et ils font des super confs, il faut les regarder, c'est merveilleux, ils vont vous dire, mais jamais on n'a participé au programme Prism. Bon, pas de bol, on a les contrats. Bon. Bref. Donc si vous... Là, il n'y en a que quelques-unes. Hein, c'est, je crois que j'ai sorti 3%. Donc si vous voulez, regardez sur Wikipédia, là, les révélations d'Edward Snowden, il y a toute une liste. C'est assez instructif. Donc tout ça, ben, normalement, ben, vous prenez votre ordinateur, vous prenez votre téléphone, vous les mettez à la poubelle et puis vous restez déconnecté du réseau, non ? Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée. Hein. Bon, on va quand même essayer d'agir. Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, contrairement à ce que je vous ai dit, il faut arrêter de faire confiance à l'informatique, y compris à un logiciel libre. Je n'ai pas confiance dans la distribution Linux que j'utilise.
C'est quoi ?
C'est une Mint. Pourquoi j'ai pas confiance dans cette distribution Linux ? Parce qu'il y a du code qui est pas libre. J'ai des drivers qui sont pas libres, j'ai des blobs dans mon kernel, je n'ai pas confiance. Tout comme j'ai pas confiance dans une Red Hat, une Canonical, enfin une Ubuntu de Canonical, une SUSE de SUSE. Voilà. J'ai pas confiance parce qu'il y a du code pas libre. Donc la seule distribution... Les seules distributions sur lesquelles on peut avoir confiance, c'est Debian, Gentoo, Arch Linux, des trucs comme ça. Et même si on leur fait confiance, eh ben, on ne sait pas s'il n'y a pas peut-être un truc. Parce que c'est dur hein, de vérifier tout le code. Donc, il faut absolument partir du principe qu'on ne fait pas confiance à l'informatique. Donc, comme on ne fait pas confiance à l'informatique, par défaut, on ne prend que du logiciel libre. Pourquoi on ne prend que du logiciel libre ? Parce que, potentiellement, il y a moins de code malicieux dans le logiciel libre que dans le code pas libre. Pourquoi ? Parce qu'on peut le détecter, tout simplement. Donc, mais il faut voir dans quelle ère on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une faille de sécurité qui est trouvée dans un logiciel libre. La première question qu'on va tous se poser, c'est est-ce que c'est une erreur du mec qui a fait le code ou est-ce que c'est volontaire ? C'est super grave. Ça veut dire qu'il y a toujours cette suspicion à chaque fois qu'on trouve une faille de sécurité ou un code et qu'il y ait un bout de code qui fasse crasher le programme parce que quand on appuie sur le bouton imprimé, bah, ça crache. Ok, là, on se dit ça va. Mais à chaque fois qu'il y a une évasion de la pile mémoire pour pouvoir exécuter du code ailleurs, à chaque fois qu'il y a un affaiblissement des sécurités du logiciel, bah, on a un doute. C'est une erreur. Ça arrive, hein, faire de... Un logiciel sans faille de sécurité, ça n'existe pas. Hein. Mais est-ce que c'est une erreur du programmeur ou est-ce que c'est volontaire ? Et donc, on est rentré dans cette ère-là. Donc, ça veut dire que oui, il faut utiliser du libre et que du libre, parce que sinon, on n'a aucun moyen de vérifier. Et donc, on va quand même vérifier la chaîne de confiance du logiciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des méthodes. C'est qui a revu le code avant le commit ? Combien de personnes l'ont relu ? Parce que si quelqu'un commit direct, ben... if root égale yes, voilà, terminé, quoi. Parce qu'il met le juste ou bien égal. Volontaire ou pas. Voilà. Donc, il faut quand même vérifier la chaîne de confiance. Bon, si vous utilisez une Debian, vous pouvez avoir confiance. Vraiment. Chiffrer. C'est important. Ça, c'est Edward Snowden qui nous l'a dit, là. Il y a OSOS SXWX, là. Il a dit, la dernière chose que la NSA ne sait pas faire, c'est casser vraiment tous les trucs de chiffrement, et notamment les trucs un peu... qui ne dépendent pas d'une entreprise, en fait. Voilà, donc un GNU-PG, ça marche bien. Voilà, vous pouvez utiliser GNU-PG, des trucs comme ça. Donc il faut chiffrer la partition, il faut chiffrer toutes ces communications, faut... Voilà, donc les certificats des sites web. Alors c'est là où on vit dans un monde... Quand vous arrivez sur un site en HTTPS, bon, il y a un certificat SSL. Vous vous dites, c'est cool, c'est sécu, mon navigateur il affiche un petit cadenas, bien, j'ai pas d'alerte sur le certificat, tout bien. Ouais, mais sauf, est-ce qu'ils ont le certificat route pour les chiffres ? On ne sait pas. Donc le seul truc auquel on peut vraiment faire confiance, c'est le certificat autosigné. Donc ça veut dire, c'est, moi-même je dis que le certificat il est bon. Le problème, c'est que votre navigateur va dire « Oh, attention, alerte, le certificat, il est autosigné. » Ah, mais désolé, moi, c'est le seul dans lequel j'ai confiance, quoi. Donc, il y a peut-être des choses à réinventer. Je pense qu'il y a des choses à réinventer, nous, la communauté du libre, peut-être repenser un système de chiffrement différent de SSL. Bon, on mettra 15-20 ans pour le faire, mais je pense que ça devient nécessaire. Et dernière chose, il faut vraiment être exigeant avec ses matériels. Bon, en tant que particulier, c'est faut juste acheter, faut avoir des choix conscients, se dire que ben voilà, ce téléphone-là, clairement, ben, il est écouté, que l'intégralité des données que je mets dedans fuite. Mais par contre, quand on est une entreprise, on va éviter d'acheter des routeurs entièrement Cisco ou entièrement Huawei. On va faire des mix. On va plutôt faire des mix. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts différents, géopolitiques, et donc du coup, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et c'est pour ça que c'est une grosse bêtise quand Montebourg dit il faut que les opérateurs français s'équipent que en Alcatel. Ok, Alcatel c'est bien, mais c'est aussi Lucent. Et Lucent, c'est pas très souverain français encore. Donc voilà sur le que faire. Mais il faut vraiment s'impliquer dans le libre. Il faut s'impliquer de deux niveaux. Participer. La première chose, participer, c'est scruter le code. Comme on a un doute sur toute faille de sécurité dans un logiciel, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est une erreur humaine, ben, si on s'est programmé, il faut lire le code. C'est pas ouvert à tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est intéressant. Voilà, j'utilise tel soft, puis je vais lire le code. Et voilà, on remonte les bugs, on remonte les trucs. Quand on est une grande entreprise, on va payer quelqu'un pour faire un audit.
Quand on trouve une faille, on peut savoir qui l'a écrite.
Oui, parce qu'il y a un suivi, suivi des versions.
Ça permet de savoir si c'est une
ou est-ce que quelqu'un a pris ses droits. Enfin, voilà. Voilà, et donc il faut mener une enquête à chaque fois. Quand on sait coder ou quand on sait faire des jolies icônes, il faut faire ça. Parce que le logiciel libre est certes mieux technologiquement, mais pas très attrayant. Il y a un problème d'UX et je pense qu'il faut que ceux qui savent faire de l'UX viennent aider ceux qui savent faire du code. Parce que les deux, c'est pas possible de faire. Quoi. C'est où on est bon en UX et où bon en code. Mais quelqu'un qui est bon dans les deux, c'est assez rare. Et après, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et on a tendance, nous, utilisateurs de logiciels libres, à la négliger, c'est financer les développeurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer 1000 euros à tel ou tel développeur, mais c'est peut-être, je ne sais pas, il y a 1 milliard d'utilisateurs de VLC. Voilà. Si on donnait tous 1 euro, voilà, VLC serait peut-être un petit peu mieux. LibreOffice, pareil. Alors, j'entends les gens râler. Ah, LibreOffice, ça a planté quand j'ai fait ça. Ça. Je fais, ok, combien tu l'as payé ? Est-ce que tu as donné ? J'ai donné, enfin, depuis qu'il y a eu le fork OpenOffice, LibreOffice, à titre perso, j'ai donné à peu près l'équivalent de 4 licences Microsoft Office. Voilà, il faut faire des choix. OpenSSH, qui donne à OpenSSH ? Il y a très peu de gens qui donnent à OpenSSH. Pourtant, tout le monde utilise OpenSSH dans l'administration système. Donc voilà, c'est important, même si c'est des petites sommes symboliques. Moi, je me suis fixé une règle, c'est boire 3 bières de moins par mois et donner 30 euros à un projet tous les mois. Voilà. Donc voilà, je bois moins de bière, donc c'est mieux pour ma santé. Et voilà. Et je donne cet argent que j'économise à des projets libres tous les mois. Je donne 30 euros. Alors c'est des projets, des fois c'est des assos, des fois voilà. Mais tous les mois, je donne 30 euros. Après, il faut regarder si chacun en fonction de ses finances. Hein, si c'est 1, 2, 3 euros, ça suffit aussi. Parce que le geste est plus important que la somme, souvent. Parce que les développeurs, il y en a beaucoup qui font ça sur leur temps libre. Il y en a certains, bien sûr, qui sont payés pour le faire. Hein, mais voir que le projet dans lequel ils participent est soutenu par les utilisateurs, c'est super gratifiant. Quoi. C'est super gratifiant. Donc ça donne envie d'en donner encore plus et de faire encore mieux et de continuer. Donc n'hésitez pas à mettre une petite pièce. Il faut faire utiliser du logiciel libre par plein de gens. Déjà, il faut en utiliser soi-même. Parce qu'on n'est pas cohérent quand on parle de logiciel libre et qu'on arrive avec un macOS. Ça, c'est mon avis perso. quelqu'un qui va vous faire une conférence sur le logiciel libre et qui arrive avec un macOS et qui fait ça sous Notes. Voilà quoi. Est-ce que vous voyez les gens de Microsoft arriver avec un Linux? Non. Bon. Avec un Mac, c'est arrivé une conférence sur Windows avec un Mac?
Il y a une photo sur
Internet. J'ai pas vu celle-là. Donc voilà, faut en utiliser soi-même. Parfois, c'est contraignant. Hein, on s'enlève un peu de commodité, mais au moins on est libre. Il faut en parler autour de soi. C'est important d'en parler, et c'est important d'en parler positivement. Et faut aider les gens. C'est important d'aider les gens. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore une résistance au changement. Donc les install parties, c'est génial. Hein, faut en faire plein. Faut faire connaître dans tout le quartier, aller tracter. Voilà. Donc faut dire voilà, n'ayez pas peur du libre. Venez en utiliser. Faut en parler. Faut faire des conférences, montrer des choses, des trucs comme ça. Y compris avec des organisations qui sont pas forcément amies. Pour vous donner un exemple. Mardi, je vais travailler avec la Hadopi pour parler des licences libres et des images et des sons libres. La Hadopi, ce n'est pas l'ami de la FUL. Voilà. Mais comme ils vont s'adresser à des collégiens, j'ai dit, voilà, collégiens, ils ont le droit d'entendre les gens là qui veulent des sous, et puis ils ont le droit aussi de savoir qu'il y a des images sous licence libre et des sons sous licence libre. Voilà, je suis arrivé au bout. Ressources super utiles, PrinceBreak. Org. Voilà, à chaque fois que vous utilisez un logiciel ou vous avez un besoin, il y a le logiciel qui est plutôt pas mal en face. J'ai mis un doute quand même sur cette liste. Dans les chiffrements de disques durs, ils ont mis TrueCrypt. Je suis pas super certain que ce soit un bon choix. Voilà.
Après, toutes leurs discussions sont publiques aussi.
Ouais, les discussions sont publiques aussi. Donc voilà, si vous voulez me contacter, il y a mon adresse email. Si vous êtes fan de Twitter, je suis là. Et puis si vous voulez adhérer à la FUL, vous êtes bienvenus. Et maintenant, place au débat. Et j'espère que vous avez plein de questions et plein de remarques. Et, voilà.
Merci. Donc oui, donc on va prendre le temps pour quelques questions. Donc je te laisse.
Alors, c'est une question qui concerne plus les activités de la FUL que le logiciel libre en lui-même.
Ouais.
Au niveau du racketticiel, à quel niveau votre action est-elle coordonnée avec celle de l'Union fédérale des consommateurs qui se bat aussi énormément contre ça et à un niveau légal, enfin...
Alors, l'UFC se battait sur ce dossier-là à la demande de la FUL.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a... Bon, je peux vous faire l'historique. En 2007, on a vraiment intégré les cercles politiques pour parler de ce sujet-là. On a embêté l'UFC Que Choisir, nous à FUL, avec l'April, pour dire vous êtes une association de consommateurs, vous êtes agréé association de consommateurs, c'est votre job de le faire, c'est pas à nous. Sachant que la FUL a commencé les procès en 2005. On a essayé de les aider sur tout un tas de trucs, donc on avait une liste de coordination pour se coordonner tous. Donc il y avait la FUL, l'April, la CLCV et l'UFC Que Choisir. Donc deux associations du libre et deux associations de consommateurs. Résultat, l'UFC Que Choisir a perdu des procès
contre la FNAC notamment.
Contre la FNAC notamment, contre HP aussi, parce que ils n'ont pas su bien. Ça, c'est notre avis. Hein. Ils n'ont pas su bien expliquer les choses au niveau du tribunal. Et donc, du coup, il nous a fallu, nous, à FUL, derrière, faire 10 procès pour changer la jurisprudence. Pour te donner un exemple, dans le procès contre Darty, contre la FNAC, ils ont réussi, quelque chose d'hallucinant, à faire dire au juge que c'était dans l'intérêt du consommateur d'avoir un système préinstallé.
Ouais, il suivait un peu le débat, et voilà. C'est vrai que c'était
apparent. Il nous a fallu... 7 procès au tribunal de proximité pour changer cette jurisprudence. Pareil dans le procès contre HP, il y avait la notion de consommateur moyen ou averti. Il a fallu que la FUL aille avec Laurent Gerbi en cassation pour dire que c'est pas parce qu'on a un doctorat en informatique qu'on ne peut pas se revendiquer de la protection de la directive européenne. Voilà, donc on a mis du temps, donc ils ont arrêté de s'en occuper, c'est bien. J'aurais aimé qu'ils nous soutiennent lors du combat pour faire voter un amendement qu'on avait écrit à la FUL dans le cadre du projet de loi consommation. Bon, ils étaient plus occupés aux actions de groupe parce que c'était réservé pour eux. Ils n'ont pas voulu nous soutenir là-dessus. C'est dommage. C'est dommage.
Mais ils ont, l'UFC n'a pas d'action législative, de toute façon.
Non, mais ils ont une action comme nous de parler aux députés. Quoi. C'est, enfin, oui. Voilà, on va voir les députés. Si la FUL le fait, l'UFC le fait. Et beaucoup plus que nous parce qu'ils ont des gens pour ça à temps plein. Donc oui. Ouais, et le problème, c'est que ils ne nous ont pas appuyés là-dessus. Quoi. S'ils nous avaient appuyés en disant que oui, l'amendement, c'est juste une précision du droit existant et non pas quelque chose qui change, ce qu'on disait, peut-être que des députés PS auraient voté pour. Parce qu'il faut, voir l'histoire de cet amendement. Il a commencé sous l'ancien gouvernement, à leur demande, parce qu'ils avaient fait n'importe quoi et qu'on avait réussi à faire rejeter un de leurs amendements. Donc on en a écrit un propre, on l'a donné à M. Hamon en disant voilà, M. Hamon, il n'en voulait pas. Donc du coup, on le donne à une députée communiste qu'il trouve sympa. Malheureusement, il s'est passé. Le député communiste qui devait le soutenir, il avait poney. Donc après, on est allé au Sénat, on l'a redonné aux communistes qui ont dit on verra pour la science publique. On l'a donné aux écologistes qui l'ont défendu en commission. La science publique au Sénat a été déposée par les écolos et les communistes, refusée encore une fois par le gouvernement et les sénateurs PS, parce que les parlementaires de la majorité sont aux ordres. Il ne faut pas croire qu'ils votent en leur âme et conscience, ils appuient là où on leur dit d'appuyer. Et donc du coup, ça repasse en deuxième lecture à l'Assemblée. Et là, on a réussi un truc formidable. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Hein. Vraiment, s'il y a des chercheurs dans les travaux législatifs, il faut me retrouver un autre exemple où il y a trois groupes parlementaires, communistes, écologistes, UMP, qui déposent exactement le même texte à la même virgule près et qui est rejeté. J'ai jamais vu ça dans aucun autre texte. J'ai jamais vu ça. Là, il y a trois groupes parlementaires, alors de gauche et de droite, et encore, on n'a pas eu le FN parce qu'on aurait pu les avoir si on leur avait parlé. Mais voilà, c'est hallucinant. C'est hallucinant, voilà. Trois groupes parlementaires, le gouvernement dit non, donc les députés PS votent non. Bon. Voilà. Donc l'UFC Que Choisir ne fait plus de choses sur ce dossier-là. C'est nous qui sommes à la manœuvre. On a passé là, en début d'année, deux cassations. Une, celle de Laurent Garbier, où on est content. Celle de Stéphane Pétrus, où on est moins content, parce que elle contredit un peu celle de Garbi deux jours avant, donc on se pose des questions métaphysiques là-dessus. On en a trois autres en cours. Voilà. Donc ça nous coûte cher par contre. ça coûte cher, parce qu'un dépôt en cassation, c'est 6 000 euros en gros, voilà, en tout.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Juste.
La lecture des fichiers vidéo, c'est-à-dire le cryptage des ECSS et puis la lecture des Blu-ray surtout,
ouais.
Est-ce qu'il y a des difficultés juridiques actuellement encore?
Alors sur DECSS, non, il n'y a plus de difficultés juridiques parce que DECSS, donc pour les DVD, c'est pas un DRM. C'est pas ce qu'on appelle en droit français une mesure technique de protection. Donc ça, on peut le casser comme on a envie. Par contre, pour les Blu-ray, on n'a toujours pas la réponse. L'association Vidéolan avait fait une saisine de la Hadopi. On a été auditionné par la Hadopi. On leur a dit ce qu'on en pensait. On leur a même fait une lecture du code de propriété intellectuelle. Hein, c'est publié sur le blog de la FUL. Donc, c'est ma pomme qui s'est collée un dimanche pour expliquer ce que c'était que le code de propriété intellectuelle à une haute autorité. Bon, bref. Et du coup, la question, oui ou non, ils ont répondu blanc. Donc, on ne sait pas. Donc, VLC, ils ont fait le choix d'y aller à l'arrache. Et puis, advienne que pourra. Hein. Donc, aujourd'hui, bah ouais, on sait lire un Blu-ray avec, avec VLC. Il suffit juste d'intégrer une petite librairie qu'on télécharge sur un site ukrainien ou je sais pas quoi, là, ou biélorusse. Voilà. Voilà. Donc, ça marche. Bon, après, je pars du principe que le Blu-ray, ça sert un peu à rien. Voilà. Et en plus, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que les mesures de protection technique, le seul objectif, c'est pas vraiment d'empêcher la copie par les gens. Hein. Parce que ça, quelle que soit la méthode de protection, elle est cassée, mais alors très rapidement dans la semaine. Hein. Y a encore Ultraviolet qui tient, mais ça va pas tenir longtemps. Et en fait, le seul et unique objectif d'un DRM, c'est de contrôler la diffusion des œuvres. C'est celui qui contrôle et qui a les droits sur le DRM qui va contrôler la diffusion des œuvres et donc contrôler le marché. C'est une histoire de gros sous. Point. Donc, la musique l'a abandonné, plus ou moins. Le cinéma, ils ont encore du mal. Et alors, le livre, ils vont mourir. Ils vont mourir. Ils n'ont pas oublié que... Ben, en fait, pour casser un DRM du livre, il suffit de prendre le livre en papier, le photocopier, quoi. C'est tellement facile que... Bref. D'autres questions ?
Moi aussi, j'ai une question par rapport à la FUL, ouais. Qui est une association que je ne connais pas beaucoup par rapport à la Quadrature du Net et à l'April, par exemple. Donc, j'ai du mal à voir ce qui fait la spécificité de la FUL par rapport aux autres associations. Et tu disais tout à l'heure que, par exemple, sur la Quatticielle, vous étiez en collaboration avec l'April.
Ouais.
Alors,
l'April fait de la com, en fait, sur le truc, parce que l'April fait beaucoup, beaucoup de communication. Ils ont des permanents, voilà, donc ils peuvent faire ce truc. La Quadrature sont obligés de faire la communication parce que c'est leur mode de fonctionnement. Ils alertent la population sur là, il se passe quelque chose. C'est grave et il faut que vous vous mobilisiez, tout ça. Donc ce sont deux associations qui sont tournées sur la communication. La FUL est tournée vers l'action. Comme je t'ai dit, j'ai un temps de bénévole qui est fixe, hein, à peu près, ça dépend des semaines. Je le mets à aller parler aux grandes entreprises pour leur dire payer pour du logiciel libre et ne payer pas que de service, mais payer aussi pour le code, ou est-ce que je le mets à faire des jolies icônes et dire quoi ça, comment on est beau, comment on est gentil, voilà. Tu vois, c'est un vrai choix stratégique. Après, sur les différences, c'est la question qui revient souvent, la différence entre AFUL et April, il y a déjà une différence de mode de fonctionnement. AFUL, comme je t'ai dit, c'est un agrégat d'initiatives individuelles. Il suffit que ça rentre dans les statuts. Hop, c'est bon, tu mets au bilan moral de la FUL. Personne ne va te dire, ah ouais, mais là, t'as fait une action, c'est bien, c'est déjà bien que t'aies fait une action. Si t'as envie de rentrer au conseil d'administration, bah, tu te présentes comme un grand, quoi. Tu dis, coucou, c'est moi, je me présente. Voilà. Il y a tout ce mode de fonctionnement. Après, les objectifs sont les mêmes. C'est juste la méthode, la manière, l'angle d'approche. Et les deux sont très complémentaires. Sur des tas de dossiers où, par exemple, sur Raquetticiel, nous, on va être plutôt dans les actions ultra pointues juridiques ou politiques, et après, il va nous aider à faire masse. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, après, si tu veux, il y a des choses où, nous, on est en avance sur certains dossiers. Par exemple, on ne dit plus vente liée depuis 2007, on dit vente forcée. Pourquoi ? Parce que la vente liée n'est pas illégale en soi. Il faut regarder à chaque fois au détail, au cas par cas, est-ce que c'était illégal ou pas ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des méthodes ? Voilà, donc on a dit, vente forcée, de toute façon, dans tous les cas, c'est une vente forcée. Et en plus, ça, c'est strictement illégal. Donc on a mis longtemps à convaincre l'April là-dessus. Maintenant, ça y est, c'est fait. On est content. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on a une compréhension des textes juridiques qui est un peu supérieure, parce qu'on a le nez dedans toute la journée, quoi. Ce qui est normal. De rien. Et puis si tu as une expertise sur un dossier et que tu veux travailler, tu es bienvenu à la FUL. Hein. C'est bien d'adhérer aux deux. De voir les deux, de comprendre. C'est bien.
Ouais. Moi, j'avais juste une question aussi par rapport, pas par rapport à l'AFUL, mais par rapport à... enfin, par rapport à GPG, en fait. Parce que j'ai lu un article récemment qui disait que la NSA avait payé la RSA pour les forcer à... enfin, en gros, pour forcer la génération de code par défaut, quoi. Et comme GNUPG utilise la RSA pour générer ses clés, je me demandais si... Si l'info était vraie et si ensuite GNUPG était toujours aussi fiable. Quoi.
Bah, est-ce que l'info est vraie? Je ne sais pas. Moi, c'est Edward Snowden qui le dit. J'ai tendance à faire confiance. Maintenant, GPG, ce n'est pas libre. Il faut utiliser GNUPG. Donc, après, il y a des algos qui ont été affaiblis mathématiquement, on le sait. Donc, il faut choisir des algos qui sont. N'ont pas encore été sautés. AES, c'est encore sécu, quoi. AES, c'est très sécu. RSA, j'ai des doutes. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
N'hésitez pas, tout ce qui vous passe par la tête. Il n'y a pas de questions idiotes.
On voit bien aujourd'hui que l'utilisation des outils Google, en particulier les Google Docs, etc., apparaissent quasiment dans tous les coins. Qu'est-ce qu'il y a comme équivalent dans le logiciel libre qui serait en fait sécurisé? C'est-à-dire du document, du tableur en ligne, est-ce que LibreOffice développe actuellement une version
Alors, la Document Foundation souhaiterait faire un LibreOffice online. C'est un sujet qui date maintenant de 3 ans. Le problème, c'est l'argent. Ça coûte très cher de faire ça. Et donc, la Document Foundation manque d'argent pour faire ce genre de choses. Sinon, il y a d'autres projets qui sont actuellement en cours. Ne serait-ce que pour le tableur en ligne, il y a un truc de jQuery qui fonctionne bien. Il y a une PME française qui s'appelle Nexedi qui est en train de faire un Office JS, donc une suite bureautique en ligne entièrement en JavaScript. Donc oui, il y a des initiatives qui arrivent. Ce n'est pas au niveau encore aujourd'hui de Google Docs, mais en même temps, qui peut mettre 50 millions dans le développement juste d'un service en ligne? Je ne connais pas beaucoup de PME qui peuvent se le permettre, quoi. Donc... il vaut mieux utiliser LibreOffice sur son ordinateur que Google Docs. Quel besoin d'avoir Google Docs? Enfin, j'utilise pas Google Docs. Quoi. En fait, c'est un besoin que je comprends pas. C'est un besoin que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi on utiliserait Google Docs, qui est une suite bureautique faible, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités, alors qu'on peut s'installer un LibreOffice sur sa machine, quel que soit son système d'exploitation. Donc, pour une grande entreprise, ça peut faire sens d'avoir un LibreOffice online pour les 100 000 employés. À titre perso, je ne vois pas l'intérêt, en fait. Si c'est pour économiser 20 mégas sur son disque dur, je ne comprends pas, en fait. Et surtout, à chaque fois que vous faites du Google Docs, c'est stocké chez Google, quoi. Donc est-ce qu'on a envie de stocker chez Google? Mais c'est pareil, chez Microsoft, ils ont Office 365, donc qui est la suite Office en ligne. Vous stockez dans OneDrive. C'est pas beaucoup mieux que le Drive de Google, quoi. Donc, où est-ce qu'on met ces documents et à quel point ils sont critiques? En fait, quand on fait un document, il faut toujours se poser 2 questions. Qu'est-ce qui se passe si la Terre entière le lit? Et qu'est-ce qui se passe si je le perds? Voilà. Il faut toujours se poser ces 2 questions. Parce qu'à partir du moment où vous le mettez dans un stockage en ligne, soit il peut leaker et donc tout le monde peut y avoir accès. Donc quand une entreprise, ça veut dire y compris vos concurrents. Le cloud, ça nous a prouvé, mais alors, des millions de fois, que en fait, ça perdait des données. Donc qu'est-ce qui se passe si on perd le fichier? Voilà, c'est pratiquement du bon sens informatique. Hein, c'est... Faut vraiment faire attention à ça, en fait. Voilà. Parce qu'on ne maîtrise pas. À partir du moment où on confie son informatique à quelqu'un d'autre, on ne peut rien maîtriser. Donc, du coup, faut se poser d'autres questions. Non ? Oui ?
Pourquoi vouloir tout maîtriser ou tout chiffrer ? Est-ce que tous les documents sont si intéressants pour la NSA ?
Non. Ils ne sont pas si intéressants que ça pour la NSA, mais ils sont dans un mode de vouloir tout attraper. Ce qu'il faut voir, c'est le changement de civilisation qui est en train d'arriver. C'est bon, ils peuvent prendre mes fichiers, je m'en fous. Quoi. Ils sont quasiment tous publics. Donc, bref. Mon adresse email, voilà, elle est partout. Mon numéro de téléphone, il suffit de voir un communiqué de presse de l'AFU, il y a mon numéro de téléphone. Voilà, il y a des tas de données comme ça. Mais c'est le changement de civilisation qui est important. Ça veut dire qu'on est rentré dans une ère de surveillance massive, d'espionnage massif. Dans une ère où on ne peut plus faire confiance à l'outil informatique, dans une ère où le réseau qui était censé interconnecter les gens et de pouvoir créer quelque chose d'autre est massivement espionné, massivement analysé. Et donc du coup, ça va induire forcément des changements de comportement. Pour vous donner une idée, il y a des choses que je dis comme ça, à deux, trois copains, parce qu'on est là, que je ne vous dirai pas en conférence. Je vais peut-être dire à peu près la même chose, mais je vais utiliser d'autres termes. Il y a un exemple super récent d'actualité. Quand il y a les écoutes de Nicolas Sarkozy, qui dit c'est bâtard, comme le gars de banlieue, voilà, c'est bâtard de Bordeaux. C'est pas quelque chose qu'il dirait. Mais à partir du moment où on sait qu'on est écouté, un, on va s'auto-censurer. Donc il y a des choses qu'on ne va plus faire. Et à partir du moment où on commence à s'auto-censurer, on arrête de réfléchir sur des choses, parce que la vie privée, c'est super important. C'est l'endroit où on expérimente, c'est l'endroit où on commence à partir sur des idées folles en se disant « c'est complètement con ce que je viens de dire, quoi. Donc j'arrête ». L'espace privé est super important. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus d'espace privé, il n'y a plus d'expérimentation, il n'y a plus de réflexion. Et donc, du coup, on devient un peu comme les gens dans 1984. Quoi. Donc, c'est vraiment un changement civilisationnel sur lequel on est arrivé. Et donc, pour leur mettre des bâtons dans les roues, il faut tout chiffrer. Aujourd'hui, quelqu'un qui va chiffrer un mail, c'est suspect. Mais si on le fait tous, ils sont embêtés. Hein. Très, très embêtés. Mais ouais, quand le secrétaire de la FUL m'envoie un mail chiffré avec une clé à 4048 bits pour me dire est-ce que tu peux passer chercher le courrier au 23 rue Grenetta, c'est pas très important qu'il chiffre ça. Mais c'est une habitude à prendre et ça met des bâtons dans les roues. Et plus on sera chiffré, moins il y aura d'alerte. Oh là, attention, il y a ces gens-là qui communiquent de manière chiffrée. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'en fait. C'est ça qui est assez hallucinant, c'est qu'ils pensent qu'à partir du moment où ils vont détecter des échanges chiffrés entre personnes, c'est soit des pédo-nazis terroristes islamistes, hein, alors qu'en fait non, le pédo-nazi terroriste islamiste, qu'il fait, c'est qu'il ouvre un compte Gmail, il commence à taper son mail, il enregistre dans les brouillons, terminé, donc le gars qui doit lire le mail, il se connecte au même compte Gmail, il ouvre les brouillons, il lit le mail et le détruit. Donc là où ils pensaient, en fait, ils surveillent nos mails qu'on s'envoie comme ça et tout ça, mais ils ne surveillent pas les brouillons de Gmail. Et c'est ça l'usage des gens qui veulent se cacher. Ils savent se cacher dans la masse. Et donc, c'est pas ces gens-là qui cherchent. Parce qu'ils savent, ils connaissent ce genre de technique. Voilà. Donc on est vraiment à un changement civilisationnel et c'est pour ça que c'est important de le contrer. Et le logiciel libre en fait partie. Ce n'est pas la seule réponse. Le chiffrement est un complément et il y en a probablement d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Non, pas convaincu ? Vous avez le droit, hein, de ne pas être convaincu, c'est important.
Je ne pense pas avoir pas des choses à cacher, mais ça ne va pas les intéresser, ce que je fais.
Bah si, en fait. Tout est intéressant.
Est-ce que c'est mes conversations personnelles ou est-ce que c'est les conversations au travail ou les documents du travail qui sont tous sur Word, sur Office?
Bah, ça dépend de... Parce qu'il y a l'espionnage de la NSA, mais il y a aussi l'espionnage des grands opérateurs, enfin des fournisseurs de services en ligne. Il y en a un, c'est juste pour vous refiler la pub un peu mieux ciblée. Il y en a un autre, c'est juste pour vendre des données à vos concurrents pour qu'ils vous grillent sur le business. Il y en a d'autres, c'est savoir qui vous connaissez. Il faut savoir que la NSA, on est tous fliqués par la NSA plus ou moins, parce qu'il suffit d'avoir 3 liaisons avec un méchant. Donc ça veut dire que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est pas gentil, vous êtes fiché. Donc comme on sait qu'on est tous à 5 ou 7 poignées de main de n'importe qui sur la planète, voilà, donc on est tous fichés. Voilà. Alors le « j'ai rien à cacher », j'aime pas, parce qu'on a tous quelque chose à cacher. Et c'est important qu'on ait des choses à cacher, on a tous un jardin secret. Alors il y a des choses qu'on peut montrer, mais on a tous un jardin secret. Enfin, je sais pas, vous accepteriez pas qu'on mette une caméra qui diffuse en temps réel dans votre salle de bain? Voilà. Vous aimeriez pas que l'intégralité de vos écrits, donc toutes vos communications, vos écrits, je sais pas, après peut-être, c'est plus la mode des journaux intimes et tout ça, mais qui se retrouvent sur une page web. Vous aimeriez pas qu'il y ait... Voilà, c'est... Toutes vos photos de vacances regroupées sur un même endroit, voilà, à qui vous parlez, et ce que vous avez dit. Donc on a tous quelque chose à cacher, même si on n'a rien à se reprocher. Donc parce que derrière le « j'ai rien à cacher », c'est « j'ai rien à me reprocher ». Ok, c'est bien, bon citoyen. Mais on a tous quelque chose à cacher et on ne veut pas tout montrer à tout le monde. Voilà. On a tous plusieurs facettes. On n'a pas la même facette en public, dans le cadre du travail, avec des amis. Voilà. Et voire même, on fait des groupes d'amis, on n'est pas la même personne. Voilà, moi, quand je fais du libre, j'ai une certaine image. Et quand je fais du parachutisme, j'en ai une autre. Voilà. Et c'est peut-être le même personnage au final, mais ce n'est pas la même perception des autres. D'autres questions ? Profitez, hein, c'est le moment. Ah, moi, j'en ai une qui a un compte Facebook. Qui veut le supprimer? Qui a un compte Gmail? Qui veut le supprimer? Qui a un iPhone? Qui veut le jeter? Bah, j'espère au moins que ça vous aura fait réfléchir un peu tout ça.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu.